おかしい、おかしい。
Bonsoir, trois thèmes seront débattus dans cette édition d'aujourd'hui de Tribune de la Presse. Il s'agit du discours du président de la République sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Ensuite, retour de Kinshasa, de Tshisekedi à Kinshasa depuis mercredi dernier. Et enfin, santé, la République démocratique du Congo fait face à plusieurs épidémies, notamment la poliomyélite et le choléra. Trois confrères journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Marcelin Mandouakila, il est directeur des rédactions au quotidien Forum des As, un journal qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Marcelin Mandouakila.
Bonsoir.
Faustin Kodiasala, il est journaliste au journal Le Potentiel, c'est un quotidien qui paraît aussi ici à Kinshasa. Bonsoir Faustin Kodiasala.
Bonsoir.
Charles Kabongo, il est directeur de l'agence congolaise de presse ACP, ville de Kikwit au Bandundu. Bonsoir Charles Kabongo.
Bonsoir Vicky.
Suivons cette revue de presse qu'on propose Samuel Kachak pour savoir comment la presse chinoise a traité les différents thèmes qui sont retenus pour les débats de ce soir.
Bonsoir. Le discours de Joseph Kabila sur l'état de la nation devant le Congrès et le retour à Kinshasa de Kylian Tshisekedi ont retenu l'attention des journaux Paris cette semaine à Kinshasa. Le phare titre, Joseph Kabila, croyez à mes œuvres. Ce journal présente le chef de l'État congolais comme un homme d'action ayant réalisé beaucoup d'avancées dans la voie de la paix, de la restauration de l'autorité de l'État, de l'amélioration de la gouvernance politique, économique et sociale, et de la relance économique et de la reconstruction. La tempête des tropiques estime que les élections auront bel et bien lieu en 2011. Telle est la détermination de Joseph Kabila devant le Congrès au Palais du Peuple. Pour la tempête des tropiques, Joseph Kabila a fait son bilan en ignorant la misère des fonctionnaires. Autre sujet abordé cette semaine, c'est le retour à Kinshasa d'Étienne Tshisekedi, leader de l'UDPS. Le phare qui rebondit sur ce sujet estime que le président de l'UDPS est effectivement rentré à Kinshasa après 3 ans d'absence au pays. Selon ce journal qui consacre sa une d'aujourd'hui au Congrès de l'Union pour la démocratie et le progrès social qui s'ouvre au centre féminin Marie-Antoinette Mobutu de l'Unité, il a fallu 1 heure de temps à Tshisekedi pour quitter le tarmac jusqu'au parking de l'aéroport de Djili. Et du parking de l'aéroport jusqu'à l'Unité, il a fallu plus de 6 heures. La tempête des tropiques va dans le même sens en soulignant qu'Étienne Tshisekedi a confirmé sa popularité. Selon ce quotidien, malgré le pain et les boissons gazeuses offertes gratuitement au Palais du Peuple, la population a choisi d'aller accueillir massivement son leader à l'aéroport international de Djili et à l'accompagner jusqu'à l'Unité. Forum des As affirme qu'Étienne Tshisekedi a, dans une déclaration politique, invité chacun des Congolais à voter utile le jour de vote et non voter les dollars qui seront offerts par les différents candidats.
Merci Samuel Kachak pour cette revue de presse. Marcelin Mandouakila, vous êtes directeur de rédaction au quotidien Forum des As, c'est un journal qui parle ici à Kinshasa. Comment vous commentez le travail abattu par la presse écrite cette semaine?
Oui, il faut reconnaître que la presse était très sollicitée, avec surtout 2 grands événements, le discours sur l'état de la nation du chef de l'État, ainsi que le retour de Kylian Tshisekedi, le leader de l'UDPS. En gros, la presse a bien fait son travail pour donner de plus en plus d'informations sur les 2 sujets d'actualité.
Faustin Kodiasala, vous êtes journaliste au journal Le Potentiel, c'est un quotidien qui paraît à Kinshasa. Comment vous commentez le travail de la presse?
Bon, moi je crois, comme a dit exactement Marcelin, je crois que la presse a fait son travail, il a rendu compte des événements. En fait, bon, c'est vrai, dans la plupart des cas, on n'est pas allé dans des polémiques tout à fait inutiles pour dire qui est populaire, qui ne l'est pas, ou qui a marqué l'actualité ou qui ne l'a pas fait. Mais disons, dans l'ensemble, la presse s'est collée à l'événement. Il y a eu, la semaine a commencé avec la messe du nouveau cardinal, Laurent Monsengo, et puis il y a eu le discours programme tant entendu du chef de l'État, et puis après, il y a eu évidemment, en coïncidence, le retour de Tshisekedi. Évidemment, dans l'ensemble, je dois dire que la presse a cherché à être comme toujours au milieu du village, en présentant une formation, bon, quitte à peut-être a donné occasion au peuple ou aux analystes économiques de voir le peuple bien maintenant s'engager dans le débat.
Charles Kabongo, vous êtes directeur de l'agence congolaise de presse ville de Kikwit au Bandundu. Quelle est la qualité qui a dominé dans cette ville cette semaine?
Ici, chez nous, c'est l'épidémie de poliomyélite qui frappe la ville. Le maire de la ville qui a annoncé ça officiellement au cours d'un point de presse avec la presse le lundi a parlé de 36 cas, dont 15 décès. Mais hier, avant-hier, à l'université du Quick, il a parlé de 41 cas, dont 15 décès. C'est ça qui domine l'actualité ici chez nous.
Merci, nous abordons notre premier thème de ce soir, discours du président de la République sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Pour Joseph Kabila, 2010 est une année de grâce pour les fils et les filles de la République démocratique du Congo. Atteinte du point d'achèvement de l'initiative TPE avec comme conséquence l'effacement de plus de 80% de la dette extérieure et la deuxième victoire consécutive en Ligue des Champions du tout-puissant Mazembe, mais aussi l'élévation au cardinalat des Monseigneur Laurent Mossengo, le chef de l'État, a aussi reconnu que les défis sont encore nombreux, William Nyamoni.
Face à la longue crise dans laquelle le pays était plongé, Joseph Kabila a estimé qu'au regard de l'ampleur du désastre, de nombreux défis liés à la reconstruction sont à relever. Pas un seul mot sur la révision constitutionnelle envisagée par le Parlement. Pas non plus un mot sur le découpage territorial. Cependant, l'amélioration du fonctionnement des assemblées provinciales est prévue par Joseph Kabila au regard des nombreux conflits qui les minent. Le président de la République a évoqué des questions liées à la sécurité nationale et à la paix. À propos de la consolidation de la paix, le chef de l'État a déclaré que la paix règne dans 140 territoires sur les 145 contre la RDC. En revanche, il a indiqué que les opérations militaires sont menées dans 5 territoires, notamment au nord et sud Kivu. Joseph Kabila n'est pas encore satisfait par la distribution de la justice, même si les avancées ont été enregistrées. Côté économique, Kabila dit sa satisfaction, attente du point d'achèvement, conséquence l'effacement de la dette par le club de Paris, prochainement par le club de Londres, a-t-il expliqué. Il s'est également dissatisfait quant à l'indemnisation des propriétés des entreprises déjà réalisées, une affaire dont le peuple n'a tiré aucun bénéfice, a-t-il souligné.
Marcelin Mandatula, quelle analyse faites-vous des temps forts du discours du président Kabila, c'est-à-dire quand il dit par exemple au sujet de la consolidation de la paix, que celle-ci, donc la paix, règne dans 140 territoires sur les 145 qui comptent la République démocratique du Congo, et il rappelle que les opérations militaires sont menées dans ces 5 territoires au nord et au sud Kivu. Comment vous analysez les temps forts de ce discours?
Oui, je crois que la paix soit revenue, c'est une bonne chose. Mais de temps en temps, il y a des forces de résistance, il y a des forces négatives. Oui, qui opèrent ça et là. Est-ce qu'il n'est pas possible de mettre un terme à cela? Il ne faut pas que ça termine que nous ayons à gérer ces genres de forces négatives. Je pense aussi que quand on se réjouit de la tête du point d'achèvement, de l'initiative PPTE, ainsi que de l'effacement de la dette, mais la population aurait souhaité que cette victoire s'accompagne de certaines retombées positives sur le plan social. Dire que nous nous portons mieux qu'il y a 15 ans, bon, je ne voudrais pas tellement me risquer sur ce terrain, parce que si je pose la question aux fonctionnaires, je ne sais pas quelle sera leur réponse. D'une manière générale, je suis d'accord avec le chef de l'État sur un point, beaucoup reste à faire. Je crois qu'il y a des actions qu'il devrait mener jusqu'au début de son mandat. On serait très avancé aujourd'hui. On a pris un peu de retard, mais je crois qu'il faut reconnaître les avancées qui sont réalisées. C'est maintenant question de savoir consolider tous ces acquis afin que cette victoire, parce qu'on parle de victoire, d'un bilan positif, il faut que le peuple le ressente, le peuple puisse le palper. Pour le peuple, c'est le social. On avait dit année du social, mais dans son discours, le chef de l'État parle d'une année de grâce. Cinquantenaire, Coupe d'Afrique, point d'assessement, mais le peuple a besoin de palper les efforts du gouvernement au quotidien. Je crois que cela est le plus grand effort à faire. Si cette année le social n'a pas vraiment été, je crois qu'il faut qu'il y ait des améliorations pour que quand on dit victoire, que le peuple dise regardons, c'est une victoire. Il ne faut pas qu'il y ait un discours à deux vitesses, un discours qui proclame la victoire au niveau du pouvoir public. Et le discours de détresse au niveau du peuple. Je crois qu'il y a moyen de fournir encore beaucoup d'efforts pour que le discours colle à la réalité, que le peuple ressente vraiment des avancées qui sont réalisées.
Il faut reconnaître les avancées qui sont réalisées, mais beaucoup reste à faire. C'est ce qu'on appelle.
Bon, évidemment, moi, je vais d'abord poser un préalable avant de m'engager dans l'analyse du discours du chef de l'État. En fait, moi, je souhaiterais que évidemment, je le fais comme Congolais, comme tout analyste indépendant. Je crois que ces discours-là, c'est vrai, il y a eu un peu de tout dedans, il y avait du bilan, il y avait du programme, mais il faut faire une lecture que j'appellerais, par exemple, une lecture citoyenne. C'est-à-dire qu'on le fasse tout en état congolais au départ, et pas faire une lecture tout à fait politique. Parce qu'on doit s'engager dans un débat politique, on risque de retomber dans la polémique d'un verre à moitié vide ou d'un verre à moitié plein. Voilà. Moi, je crois qu'il faut reconnaître qu'en tant que Congolais, qu'il y a des avancées qui sont là, comme tu as dit, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. C'est vrai que ça se fait lentement, parce que les fichiers ont été tels qu'à certains endroits ou à certains domaines, ou peut-être dans certains cercles, il fallait totalement démolir. On n'a pas eu le temps de réhabiliter. Et je crois, quand on démolit pour reconstruire, ça prend généralement un temps. C'est vrai. Ce qu'il faut saluer, dans ce qui est déjà fait jusque-là, c'est la dynamique qui est là. Il y a une dynamique de la reconstruction qui est là. C'est vrai, ça se fait de manière un peu timide parce que nous sortons d'une situation. N'oubliez pas que nous sommes un pays post-conflit, et puis il y avait cette contrainte de la dette qui nous collait pratiquement à la peau. En fait, tous ces impondérables ont fait que les choses n'évoluent pas suivant le rythme qu'on souhaiterait avoir. C'est vrai, on peut peut-être s'interroger sur l'impact de tout ce qui est déjà engagé comme action sur le panier de la ménagère. Ça aussi, c'est un autre débat. Mais ce qu'il faut saluer, et je crois que c'est la partie positive, bien sûr, selon ce que j'appelle une lecture citoyenne, c'est-à-dire que je le fais en tant que Congolais, parce qu'il faut reconnaître, à moins qu'on soit étranger dans ce pays, en tout cas, il y a des choses qui se font, qui n'ont jamais été amorcées. C'est vrai que ça se fait dans un rythme, peut-être c'est timidement que ça se met en place. Mais rappelez-vous que le Congo, c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés. Si vous vous concentrez pour la seule ville de Kinshasa, et que peut-être il y a d'autres actions qui sont faites à l'intérieur, je crois que quelqu'un qui se limite juste dans la ville, il ne peut pas s'imaginer sur tout ce qui se déploie déjà à l'intérieur du pays. C'est pourquoi je reviens toujours à ce que j'ai dit bien avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous nous engagions dans une polémique de genre le verre est à moitié plein ou le verre est à moitié vide. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelque chose déjà dans le verre. Peut-être que ce n'est pas encore plein. Certains souhaiteraient que ce soit directement plein. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a déjà quelque chose dans ces verres-là. Prions ainsi que ces verres soient réellement pleins dans les eaux qui viennent.
Charles Kabongo, il faut saluer cette dynamique de la reconstruction, comme vient de le dire Faustin Kouadiassala. Comment la presse, Robin Nounou, dans la ville de Kikwit, a analysé le discours du chef de l'État?
Oui, comme vous l'avez dit, la presse a salué ces discours, et surtout la dynamique dans la constitution, parce que nous sommes bénéficiaires de la réhabilitation de la nationale numéro 1. Les transporteurs prenaient beaucoup de temps pour arriver à Kinshasa ou arriver à vice-versa, arriver à Kikwit. Et maintenant, c'est vraiment quelques heures seulement que vous êtes à Kinshasa ou à Kikwit. Il y a aussi le pont côtier de cette île, la rivière Luangé, qui relie les deux Kasaï à la province de Bandundu et la ville de Kinshasa. Nous pouvons aussi ajouter à cela la construction d'un stade omnisport dans la ville de Kikwit et la réhabilitation de l'ancien stade du 30 juin. Qui était laissé par les belges et qu'on est en train de réhabiliter maintenant par le gouvernement central.
Donc, les centres sont une réalité dans la ville de Kikwit?
Oui, il y a quand même des réalités, c'est ce que nous avons dit. Et il y a aussi le barrage de Kakobola, dont les Indiens qui vont faire ce travaux sont déjà arrivés à Kakobola. Ils ont étudié, ils ont dit que d'un moment à l'autre, ils vont commencer déjà le travail qui durera 36 mois. Donc c'est quand même des œuvres que nous voyons, nous partons avec nos doigts ici, c'est les espaces à Kikwit.
Marcelin et Mandatula, nous allons évoquer l'aspect élection. Une certaine opinion pense que les élections de 2011 sont hypothétiques parce qu'elle dit que les calendriers publiés par la CI n'est pas appliqué comme il se doit. Et, or, le chef de l'État a rappelé que l'année 2011, c'est une année électorale. Et à cet effet, il a annoncé des actions qui sont engagées en prévision de ces élections, notamment la loi sur la CENI qui a été promulguée. Et il évoque aussi ce qui reste à faire, notamment l'installation des juridictions chargées de contentieux électoraux, notamment la Cour constitutionnelle. Il a aussi annoncé que le gouvernement s'est engagé d'assurer sur fonds propres 60% des financements des opérations préélectorales et électorales. Comment vous expliquez le scepticisme de ces gens qui pensent que les élections en 2011 sont hypothétiques?
Oui, peut-être qu'ils ont quelques craintes, mais je crois que nous avons tous intérêt à ce que l'année 2011 inaugure la prochaine étape des élections, parce que ça va aller jusqu'en 2012 pratiquement. Il ne faut pas être vraiment pessimiste. Mais je crois qu'au niveau de la classe politique, et je vois plus l'Assemblée nationale, il faut que des efforts soient fournis pour mettre en place la CENI. Parce que la CENI pose problème. Pour les uns, la CENI est là en attendant que la CENI soit complètement installée. Pour les autres, la CENI doit s'arrêter, place maintenant la CENI. Donc je crois que les uns et les autres doivent harmoniser, parce qu'il y a une bataille autour des listes et des candidats présentés par les uns et les autres. Je crois qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'essentiel, que la CENI soit mise en place, que tous les autres éléments soient réunis pour qu'effectivement l'année prochaine, il y ait des élections. Et ce ne serait pas une bonne chose qu'on rate ces élections, parce que ça permettrait à ceux qui seront élus de savoir corriger les erreurs commises pendant le premier mandat. Et c'est en améliorant cette zone que nous arriverons un jour à qu'un élément meilleur.
Faustin Kodefala, est-ce que vous pensez qu'il y aura élection en 2011?
Bon, ce qui est vrai, ce qui est vrai en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le peuple congolais ira une fois de plus aux élections. Peu importe que ce soit en 2011 ou en 2012 ou en 2013, en tout cas ce qui est vrai, c'est que après la fin du mandat en cours, le peuple congolais sera appelé une fois de plus à élire les principaux animateurs de ces institutions. Bien sûr, il y a des contraintes, il y a des préalables qui doivent encore être réunis, mais je suis sûr que même si ce ne sera pas en 2011, en tout cas, tôt ou tard, le peuple congolais ira aux élections. Mais notre espoir, ça se passe en 2011. S'il faut que je revienne sur votre question à Marcelin sur la CENI, en fait, bon, c'est vrai, dans son discours, le chef de l'État prend un certain nombre d'engagements. Il a répété pratiquement sur le cas de la constitution du bureau de la CENI, il a dit clairement que la CENI, en fait, parce que toute la crédibilité de la CENI dépendrait de sa neutralité. Et même le chef de l'État a rappelé que non, il souhaitera c'est que la mise en place de toutes les institutions qui doivent accompagner les élections, en commençant par la CENI, ne puisse connaître aucun retard. Or, le retard, il est déjà là. On sait que les deux composantes qui devaient se choisir, les 7 membres du bureau de la CENI, ils ont déjà transmis la liste à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui bloque? Parce que je crois qu'il faut que dès le départ, que nous puissions déjà nous mettre d'accord sur des principes pour qu'il n'y ait pas des élections contestées par la suite. Et je crois que les principes, ce sont les textes qui organisent le processus électoral. La loi créant la CENI ne prévoit pas ce que quand les deux composantes transmettent leur liste au bureau de l'Assemblée nationale, qu'il y ait encore une commission, soi-disant ad hoc, pour examiner ces candidatures. Mais ce qu'on constate malheureusement, c'est qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on a essayé de torpiller le mécanisme en créant une commission qui puisse analyser les choix de composantes telles que fixées par la loi créant la CENI, ce qui pose problème. Parce que déjà au niveau de la constitution de la CENI, il y a déjà des germes de conflit qui nous prouvent que non, on ne sait pas si exactement cette CENI-là fonctionnera en toute neutralité et si cette CENI-là fonctionnera en toute transparence. Et puis il y a un autre problème, c'est le choix des personnalités. La loi qui crée la CENI dit clairement que ces personnalités sont choisies dans les deux forces en présence à l'Assemblée nationale. Il y a la majorité et l'opposition. Déjà par rapport à leur choix, j'ai déjà une certaine coloration politique. Est-ce que ces gens-là sauront-ils se surpasser pour faire preuve de neutralité? Est-ce que seront-ils capables de couper le cordon ombilical qui doit nécessairement les lier à ce qu'ils ont choisi?
Je crois justement, que justement, les débats se situent à ce niveau-là, à l'Assemblée nationale. C'est au niveau du caractère indépendant des personnalités qui doivent composer la CENI.
Parce que de part et d'autre, que dès l'instant, on s'est mis d'accord sur ce mode de désignation. Que c'est la majorité de l'opposition qui recommande les gens au bureau de la CENI. Quand la majorité recommande, je crois qu'il doit recommander un fidèle des fidèles. Il ne peut pas recommander quelqu'un qui n'est pas sûr. Et quand l'opposition opte pour une personnalité, je crois que cette personnalité doit avoir prouvé réellement son appartenance et son aptitude à défendre les idées de l'opposition. C'est pourquoi je disais, dans le processus électoral, il faut que nous nous mettons d'accord d'abord sur des principes. Parce que si nous négocions très mal au départ, soyez-en sûr qu'il y aura certainement des conflits qui vont s'accumuler et par effet boule de neige, on va se retrouver avec un processus électoral totalement biaisé. Donc le danger, c'est ça. Les 7 membres qui ont été choisis, c'est à ces 7-là que dépendra justement la crédibilité du processus électoral.
Sata Bongo, qu'est-ce qu'il faut faire pour élaguer ce germe de conflit qui commence à se manifester au sein de la CENI qui n'est pas encore constituée?
Oui, c'est là pour que les gens gardent encore, malgré leur cooptation dans la CENI, ils gardent encore leur coloration politique. Donc on doit faire l'effort pour se dépasser. Dès qu'on a pris quelqu'un pour de la CENI, il doit être automatiquement ou bien son parti politique pour prendre la collaboration de la société civile, par exemple. C'est comme ça que nous sommes en train de regretter. Il fallait qu'on puisse passer aussi à la présence de la société civile qui pouvait un peu équilibrer les choses dans ces conflits. Parce que vous voyez maintenant, ce sont des choses qui sont arrivées en Côte d'Ivoire, à Syrie, qui arrivaient un jour ici chez nous. Nous voulons que les gens se dépassent, qu'ils oublient leur coloration politique, qu'ils optent maintenant pour les colorations purement de la société civile.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Retour de Kim Tshisekedi à Kinshasa depuis mercredi dernier. C'est Kim Tshisekedi, candidat à la présidentielle de 2011. Il a déclaré mercredi dernier tard dans la soirée. Le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui est rentré à Kinshasa après 3 ans d'absence au pays, s'adressait à des milliers de militants de l'UDPS qui l'ont accueilli et escorté à pied pendant 7 heures depuis l'aéroport de Ndjili jusqu'à sa résidence sur la 12e rue à Limete. Dans cette déclaration d'au moins 10 minutes, très attendue par les militants de l'UDPS, et Kim Tshisekedi insiste sur le vote utile. On l'écoute dans ses propos recueillis par Innocent Olenga.
Noyébé, le novembre,
vous savez, en novembre de l'année prochaine, 2011, nous allons passer à l'élection présidentielle. Je voudrais vous dire que je suis candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. Dites-le à tous vos amis à travers tous les pays et tenez-les pour vous. Il faut donc le jour du vote que chacun de vous se souvienne de toutes les souffrances que nous endurons et qu'il vote l'utilité, qu'il ne vote pas l'argent, qu'il ne vote pas les dollars. D'ailleurs, s'il te donne ces dollars, sache que c'est ton argent qui t'ont volé. On te donne alors cet argent, bouffe-le parce qu'il t'appartient, mais dans l'eau, tu sauras pour qui voter.
Marcelin Mandouakila, votre journal Forum des As, a publié dans l'édition hier, a repris les propos de Kim Tshisekedi à la une. Il dit ceci: il faut que le jour du vote, chacun des Congolais vote utile et non les dollars. Et comment réagissez-vous à cette sorte d'interpellation de M. Tshisekedi à l'endroit des militants des militaires?
Tshisekedi ne pouvait pas dire le contraire parce que depuis l'Europe, il a annoncé sa candidature à la présidence de la République. Il ne pouvait que voir cette masse, pas du côté du pouvoir, et embarquer le peuple dans une logique qui lui permettrait d'avoir suffisamment de chances en tant que candidat face à bien d'autres. Mais il faut saluer son retour, d'abord parce qu'il était annoncé pour être très malade. Qu'il nous soit rentré comme ça, c'est une bonne chose. Et deuxièmement, parce que son retour aussi relance les jeux politiques. L'opposition a été quelque peu décapitée avec l'absence de Jean-Pierre Bemba. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre entre le pouvoir et l'opposition. Même ces jeux-là au niveau de la bagarre électorale sera une bonne chose pour l'éclosion de la démocratie. Donc, ce qu'il est rentré, c'est bien. Mais je me demande s'il saura se mettre d'accord et mettre sur le même diapason que ses alliés de l'opposition. Parce que ce côté-là, c'est ce qui est une faiblesse. Généralement, ils ne respectent pas les accords avec les partenaires, les alliés politiques, ou carrément, il a toujours tendance à mettre en exergue la prépondérance de l'UDPS.
C'est un moment de vous, hein?
Oui, donc il y a le LLC ici et d'autres forces. Si l'opposition ne veut pas aller en ordre dispersé, je crois qu'il doit y avoir une plateforme qui les met ensemble. Mais son retour est bon parce que ça va raviver la flamme politique, le jeu politique va être relancé et nous aurons des élections vraiment qui pourront nous rappeler ce qu'on a connu en 2006 en dehors de la guerre, bien sûr.
Faustin Kouadiassala, le journal, le potentiel votre journal, hein, titre dans l'édition d'aujourd'hui vendredi, vous dites que Étienne Tshisekedi se lance dans la bataille pour la conquête du pouvoir.
Bon, évidemment, c'est vrai, parce que avant de répondre à votre question, je dois d'abord vous rappeler que depuis un temps, je fais l'intérim du directeur de publication. Donc, on s'est retrouvé dans l'embarras, en fait, pour avoir ce titre-là. Parce qu'en fait, le titre du reporter qui était sur place, c'est que c'était dit à notre candidature à la présidentielle de 2011. On s'est dit, bon, si on doit le faire dans ce sens-là, c'est comme si on s'engageait déjà dans la campagne de manière prématurée. Donc on se dit, bon, comme tout parti politique, l'objectif c'est la conquête du pouvoir, et si c'est un autre candidat, évidemment, qu'on titre sans entrer dans ce jeu-là de la campagne, qu'on titre, bon, voilà, qui c'est qu'il vise maintenant la conquête du pouvoir. Ça c'est juste une parenthèse. En fait, pour revenir à votre question, moi je crois, comme a dit Marcela, le retour de ce qu'il dit, c'est une bonne chose, il faut le saluer. Ça va alimenter en fait le débat politique,
dans le pays. Parce que vrai, depuis un certain temps, on était plus habitué à entendre la bipolarisation de la vie politique entre la majorité et l'opposition, en fait, l'opposition
parlementaire.
Justement. Parce que la bipolarisation, c'est par rapport aux deux forces politiques en présence à l'Assemblée nationale. On ignorait en fait qu'en dehors de ceux qui siègent à l'Assemblée nationale, il y a d'autres partis politiques qui comptent et qu'il faudra aussi prendre en compte un point de vue. Et puis, c'était du rentre, ça va alimenter le débat. L'opposition non institutionnelle, maintenant, trouve quelqu'un qui peut porter un peu plus loin sa voix. Mais par rapport à la déclaration que le président national du UDPS a faite dès son retour au pays, en s'annonçant directement candidat, bon, moi je l'estime un peu prématuré, c'est vrai. C'est connu qu'il est depuis le respect là déjà annoncé depuis longtemps, quand il s'est venu déjà en Europe, donc là c'est un non-événement. Mais moi je souhaiterais qu'il s'était dit travaille beaucoup plus pour aménager d'abord, pour nettoyer d'abord sa maison, parce qu'on sait qu'en son absence de 3 ans, beaucoup de choses se sont passées dans son parti. Il retrouve un parti totalement déséquilibré. C'est un parti qui est totalement, qui n'est pas en voie de dislocation, c'est ce qu'on ne souhaite pas, mais c'est un parti au moins qui doit se rechercher. Et je crois,
mais lorsque vous voyez cette foule qui a accompagné Tshisekedi de l'aéroport à sa résidence, comment vous interprétez cela? C'est un message? Comment vous interprétez cela?
Non, c'est un message parce que vous savez, Tshisekedi n'est pas un acteur politique de la première ère. Tshisekedi, comme on dit, de son parti de paix, c'est la fille aînée de l'opposition. Tshisekedi est dans la politique active depuis pratiquement 82, quand il a démissionné d'un père, quand ils se sont engagés dans la voie d'une opposition, alors que Mobutu était encore fort dans le temps. Je crois, même si je reconnais personnellement que dans son parcours politique, Tshisekedi a commettre un certain nombre d'erreurs. Là, quand on l'attendait, généralement, il s'est pointé en abonné absent. En 2006, le peuple espérait que Tshisekedi sera là. Bon, il a considéré boycotter. Il annonce qu'il sera là aux prochaines élections. Nous le saluons. Mais je crois, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que la foule se mobilise autour de son retour. Ça, c'est déjà un message fort. C'est pour dire que l'homme, c'est quelqu'un sur qui on doit compter. Et c'est quelqu'un qui est venu justement pour troubler en fait le calcul sur le terrain politique. Et je suis sûr que les calculs sont réellement en train d'être corrigés.
Sans Kabongo, que disent les partisans de l'UDPS qui quittent au sujet du retour de M. Poutine, c'est ce qu'ils disent?
Ils sont très contents, ils sont officialisés du retour, comme le président confirme l'ont dit. Ils espèrent qu'il apportera un plus sur les constitutions du pays, surtout dans les domaines de la démocratie. Vous savez bien que moi, personnellement, je suis très content de notre démocratie, même si les gens disent que la participation n'était pas effective de la démocratie, le débat de la semaine passée. Mais vous voyez qu'il y a le même jour où le président tenait son discours sur l'état de la nation à Kinshasa. Mais il n'a pas eu les échauffements, on l'a laissé, il est passé. Donc, c'est 26 jours où nous montrons quand même au monde entier que nous sommes en train de faire un apprentissage qui évolue bien dans la démocratie.
Est-ce que vous avez déjà évalué l'impact que ce retour pourra avoir dans les paysages politiques à Kikwit?
Oui, ici à Kikwit, c'est un peu difficile pour parler un peu des libertés, parce que vous savez que ici, si l'espèce est visible, bien sûr, mais il n'est pas comme à Kinshasa, comme à Mbujima et ailleurs. Mais ici, ils sont là, mais ce n'est pas vraiment un niveau très élevé. Mais ils sont là quand même, ils font quand même de bruit, ils se réunissent, tout ça. Je pense qu'ils sont même au congrès.
Oui, Marcelin Mandokina, avec le retour de Tshisekedi, comment vous entrevoyez l'avenir de l'opposition en République démocratique du Congo? Est-ce que cette opposition pourra-t-elle se fédérer autour de Tshisekedi? C'est vrai que vous vous êtes posé cette question-là, ou elle pourra aller aux prochaines élections en ordre dispersé? À votre avis?
Tout ça dépendra des alliances et des garanties que Tshisekedi peut donner. Parce que le MLC, au cours de sa conférence de presse hier, a carrément minimisé ce retour. Juste saluer qu'il soit rentré en bonne santé et qu'il puisse venir pour le combat politique. Mais pour ce qui est de leadership, ça pose un peu problème. Cela voulait dire quoi? Cela voulait dire qu'il faut qu'il y ait des alliances. Il faut qu'il y ait des accords entre partenaires politiques. Le MLC, même si Jean-Pierre Bemba n'est pas là, cela ne constitue pas un chèque en blanc pour tout ce qui est. Il faut qu'ils se mettent d'accord. Tout comme aussi, il y en a qui évoquent aussi la possibilité que Joutel Kamere rejoigne les camps de l'opposition. Bon, tout ça, là-dedans, il y a boire à manger, il n'y a pas encore de confirmation. Mais je crois que ça dépend de la capacité des leaders de l'opposition de se mettre d'accord, de se mettre autour d'une table, de parler de même. Là, on a d'avoir le même objectif
tout ça dépendra de cet élément majeur pour que le Poisson n'aille pas en ordre dispersé en 2011. Mais c'est ce qu'elle commence par dire. Écoutez, moi je suis le leader naturel de l'opposition. Donc on négocie rien, il n'y a aucun accord. Rangez-vous derrière moi. Là, déjà deux de pas, ce serait une fausse note. Il paraît que l'opposition ne parlera jamais le même langage. C'est ça aussi ma crainte.
Question que vient pas là. Comment vous, vous entrevoyez l'avenir de l'opposition politique en République démocratique du Congo avec ce retour des Félix Tshisekedi?
En fait, bon, c'est que moi je dirais par rapport à cette question. Le président national de l'UDPS doit s'inspirer de cette sagesse qui dit autre temps, autre mort. Parce que c'est depuis 3 ans qu'il n'est pas ici, et en 3 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc il doit évoluer avec le temps, justement. Parce que d'abord en 2006, il ne s'était pas engagé dans le processus, alors que depuis 2006, on sait que ce sont les jeux des alliances qui dominent sur la scène politique. Les gens, en fait, les partis qui se maintiennent sont au nom des alliances qui se sont constituées. Et je souhaiterais que l'UDPS ne soit pas arrogant comme il l'a toujours été. C'est-à-dire qu'il ne soit pas omnibilé par son soi-disant droit de naissance. Parce que c'est moi qui suis le premier parti politique d'opposition, parce que c'est moi qui ai balisé le terrain pour que les autres s'engagent sur cette voie. Donc c'est moi qui devais normalement être prioritaire chaque fois qu'il s'agira de discuter, ou chaque fois qu'il s'agira peut-être de s'engager dans une négociation. Je crois que l'UDPS, après tout ce qui s'est passé, il doit y rester à ses différents interlocuteurs, autant dans l'opposition que dans les, peut-être les pourparlers qui pourraient engager d'une manière ou d'une autre, qui sait, avec ceux qui sont au pouvoir. Comme je l'ai dit toujours, et comme je l'ai dit tout au début, je crois qu'il faut que le président national de l'UDPS prenne le temps de faire la lecture de la scène politique actuelle congolaise. Parce que c'est vrai, il était à Bruxelles. Bruxelles, c'est plus de 6 000 km de la RDC. C'est vrai, on peut dire qu'il suivait les informations, qu'il y avait des gens qui lui envoyaient peut-être au jour le jour des informations sur la mouvance politique, et c'est ce qui s'est passé. Mais quand on vous envoie l'information, entre les metteurs et les récepteurs, il y a toujours une déformation. Mais quand on est sur place, on a le temps de voir, on a le temps d'analyser. Moi, je souhaiterais qu'ils prennent le temps, en tout cas qu'ils prennent le temps, les prochaines élections, selon le calendrier qui a été publié par la CI. La présidentielle, c'est en novembre 2011, donc il a encore une année pour se préparer, une année pour savoir quelle orientation prendre, quel message finalement donner à ce peuple. Parce que c'est vrai que le message de l'ère Mobutu doit être extrêmement différent avec le message de l'ère Kabila.
Voilà. Charles Kabongo, le congrès de l'UDPS va commencer d'ici peu. Et que peut-on attendre de ces assises?
Oui, je pense que ces assises vont d'abord chercher à réconcilier le gel de l'UDPS et communiquer officiellement la candidature du Tshisekedi à la présidence de la République. Parce que ce qu'il a fait, jusqu'à présent, ce n'est pas encore officiel. C'est pas officiel quand le Congrès va le confirmer dans cette position-là.
Merci, nous abordons notre dernier thème de ce soir. Santé, la République démocratique du Congo fait face à plusieurs épidémies, notamment la poliomyélite et le choléra. Les épidémies de poliomyélite et de choléra prennent de l'ampleur dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Plusieurs cas sont signalés à travers le pays, notamment à Kikwit au Bangundu, à Mwanda au Bakongo, à Tshikapa au Kasai occidental et dans la ville de province de Kinshasa. Il a aussi été signalé des cas de choléra au nord Kivu et de rougeole au Katanga. Samuel pour les détails.
Les derniers cas de poliomyélite ont été enregistrés dans le Bangundu, où l'on signale à ce jour 35 cas de paralysie flasque aiguë à Kikwit, avec 15 décès, en majorité des adultes. De janvier en octobre de cette année, près de 44 cas ont été signalés dans la province du Kasaï occidental, dont 32 pour le seul district sanitaire de Tshikapa. À Kinshasa, on a signalé le cas d'un homme atteint de poliovirus sauvage venu de Pointe-Noire en République du Congo. À Mwanda dans le Bas-Congo, les sources médicales ont confirmé le 30 novembre dernier un cas suspect de polio. Il s'agit d'un enfant de 5 ans qui a le membre supérieur et inférieur paralysé, signalant que ce nouveau type de poliomyélite attaque les enfants et les adultes, comme l'a confirmé le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en RDC. En ce qui concerne le choléra, au moins 260 cas avec 2 décès ont été notifiés au nord Kivu dans la zone de santé de Kirotche il y a près de 3 semaines. À la même période, 70 cas de rougeole dont 7 décès ont été enregistrés en l'espace de 2 semaines dans la localité de Sapoué à 75 km de Lubumbashi sur la route de Kasinga au Katanga.
Charles Kabongo, je rappelle que vous êtes directeur de l'agence congolaise de presse ville de Kikwit au Bandundu, où l'on signale, dans cette ville, la ville de Kikwit, on signale 105 cas de paralysie avec 15 décès, à majorité des adultes. Comment, là, à Kikwit, comment vous vivez cette situation?
Oui, c'est vraiment avec beaucoup d'inquiétude que nous sommes en train de vivre cette situation. C'est comme ça qu'il y a une campagne de sensibilisation qui est menée maintenant par l'autorité de la ville, le médecin, tout ça, pour que les gens puissent aller se faire vacciner. Donc il y aura une vaccination de riposte pour attaquer cette maladie. C'est quoi ça? Là, ça sera avec même les adultes, parce que la plupart des cas sont des adultes qui se meurent. Donc, je voudrais juste simplement dire que tout ça, c'est les conséquences de la mauvaise politique sanitaire de notre pays. Vous voyez, par exemple, la maladie a commencé dans notre province à Ipamou. Or, Ipamou, Kikwit, les gens d'Ipamou passent facilement par Kikwit. C'est cette maladie-là qui a quitté Ipamou pour arriver facilement à Kikwit. Parce qu'à Kikwit, c'est vraiment les carrés de mousse qui reçoivent les gens qui viennent. Mais qui ne capte pas qu'ils reçoivent les gens qui viennent de Kinshasa, du Congo-Brazzaville, etc., etc. Donc, c'est pas les conséquences de la mauvaise politique de sanitaire de notre pays.
Charles Kabongo, est-ce que la vaccination a effectivement commencé?
On dit juste que là, non, parce que la vaccination avait commencé dans la campagne habituelle avec les enfants. Dès que cette situation est arrivée, je pense que les autorités sont en train de mener des démarches pour qu'on puisse maintenant envoyer un lot important de vaccination, de vaccins pour qu'on puisse vacciner les gens.
Je rappelle que vous êtes journaliste au journal Le Potentiel, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Comment peut-on expliquer cette recrudescence des maladies en dépit de différentes campagnes de vaccination, et surtout en cette procédure de la poliomyélite?
Ces problèmes, c'est vrai qu'on doit s'inquiéter que une vieille maladie qui était considérée presque éradiquée ressurgisse de manière aussi brusque. Ça prouve qu'il y a un problème. Et ça prouve aussi que les conditions de vie de nos populations sont en train de se détériorer au jour le jour. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, c'est aussi la preuve qu'il y a une accentuation de la pauvreté, surtout dans nos milieux ruraux. Bon, ça, c'est une analyse tout à fait générale. Mais s'il faut aller dans les spécificités, en se positionnant rien qu'au niveau du secteur de la santé, moi, je crois ces maladies qui se surgissent, c'est la preuve que jusque-là, il n'y a pas eu une certaine coordination dans les différentes politiques qui ont été mises en œuvre au niveau du secteur de la santé. C'est quoi notre constat?
Charles Kabongo l'a
rappelé. En fait, jusque-là, là, je me rappelle un moment, j'ai travaillé avec le ministère du Plan sur les groupes thématiques santé. J'ai participé à un certain nombre de discussions. En fait, les groupes thématiques santé, c'était à la suite d'une réunion qu'il y avait à Kinshasa sur l'efficacité de l'aide. En fait, c'est un groupe où il y avait les bailleurs, différents partenaires qui interviennent dans le secteur de la santé pour voir dans quelle mesure coordonner leurs actions pour un impact visible et immédiat au niveau de la population. Et il y a un constat qui a été fait, et je crois, au niveau du ministère de la Santé, vous avez fait presque un mea culpa en reconnaissant que jusque-là, dans le secteur de la santé, c'est comme s'il y avait un saupoudrage dans les actions. C'est-à-dire chaque bailleur, chaque action, les actions n'étaient pas menées de manière coordonnée. Il y a juste des actions tout à fait isolées. Et je crois que c'est là où il faudra d'abord commencer à résoudre les problèmes. Parce que comment comprendre que dans le secteur de la santé, il y a chaque bailleur, il y a la Banque mondiale qui développe un programme qui s'appelle PARS, il y a la BAD qui a son programme, l'Union européenne qui a son programme, alors que si on pouvait coordonner tous ces programmes-là, et que ces programmes soient développés dans une stratégie nationale pour le secteur de la santé, on aurait peut-être beaucoup plus d'impact sur le terrain. Moi, je crois, et puis il y a un autre problème, il faut dire que depuis un certain temps, en tout cas depuis la, par rapport à toutes les publicités qu'on a fait sur la pandémie du sida, toutes les actions au niveau du ministère de la Santé sont orientées vers la lutte contre le sida. En fait, on a négligé d'autres maladies. Parce que ces maladies ressurgissent, c'est la preuve aussi d'une certaine négligence au niveau de la mise en œuvre des actions. On a cru que tout ce qu'il y a comme maladie à combattre, c'est juste le sida. Alors qu'il y en a d'autres, aussi bien pas choléra. C'est une vieille affaire qui a été déjà ignorée presque. La poliomyélite, je crois, à la télévision comme à la radio, on nous rappelle chaque fois les différents programmes de vaccination qui sont menés. Maintenant, on doit se déroger ces programmes qui ont été menés. Ils ont été menés dans quel cadre? Est-ce qu'on a réellement atteint les cibles? parce que la poliomyélite des souris, c'est que tous les programmes de vaccination sont passés outre leur cible. Je crois que tout ça, ce sont les questions qu'on doit soulever au niveau du gouvernement pour une stratégie nationale du secteur de la santé, où toutes les actions des bailleurs viendront se greffer. Et aussi au niveau du bailleur, il faut qu'il y ait coordination, que les bailleurs ne puissent pas évoluer de manière isolée, qu'ils évoluent dans un cadre qui est convergence et qu'on sache exactement ce qu'on veut.
Marcel Mandofila, je rappelle que vous êtes directeur des rédactions au quotidien Forum des As, un journal qui paraît ici à Kinshasa. C'est une nouvelle forme de poliomyélite qui s'attaque également aux adultes et se reprenne la mort. Quelle attitude que l'État congolais doit adopter pour faire face à ce genre de maladies? Faustin Kodiatala a parlé de la coordination. Il faut qu'il y ait une coordination des programmes. Il a évoqué aussi le fait que la lutte contre le sida a éclipsé la lutte contre les autres maladies. Qu'est-ce que vous avez à ajouter?
Je crois qu'avant de parler des coordinations, il faut d'abord qu'il y ait une politique congolaise en matière de santé. Nous avons notre politique. Les partenaires qui arrivent en appoint pour nous soutenir doivent suivre la politique qui a été tracée. Il ne faut pas que chacun fasse à sa manière. Tel partenaire s'intéresse à telle maladie, tel autre à telle autre maladie, des actions ne passent comme ça. Il faut d'abord qu'il y ait une politique et c'est à ce moment-là que la coordination intervient pour coordonner toutes les actions vers la politique tracée.
Et il y a une politique qui n'existe pas?
Si elle existait, on aurait des résultats. Je me pose des questions. Il y a un autre élément. Je ne sais pas s'il faut parler d'absence ou de relâchement au niveau de la surveillance médicale dans nos postes, au niveau des frontières. Si vous observez bien, ce sont des maladies, des épidémies qui étaient déjà maîtrisées par le passé, mais qui maintenant remontent à la surface par le fait que des gens peuvent s'introduire chez nous sans qu'il y ait une surveillance médicale pour détecter qui a quelle maladie et qu'on le mette un peu en quarantaine pour le soigner. On a signalé un cas pour le Congo-Brazzaville avec le polio. Quelqu'un qui est venu avec un Congolais d'en face qui est arrivé ici portant déjà la maladie. Heureusement qu'on l'a dénoncé à temps. Donc, au niveau de nos frontières, il faut qu'il y ait une surveillance médicale. Nous avons des services d'hygiène. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a alors? Il faut savoir qui vient chez nous et quelle personne est porteuse de quelle maladie déjà éradiquée ou une épidémie déjà maîtrisée. Donc il y a risque que cette épidémie ressurgisse. Donc il faut mettre la personne en quarantaine le temps de soigner. Donc en dehors de la politique de la santé, en dehors de la coordination, il y a également un problème de surveillance médicale au niveau de nos frontières.
Merci, c'est la fin de cette émission. Jean-Noël Mokondo était à la technique, Alain Irungo à la réalisation assistée de Samuel Kachak, sous la supervision de Ben Kabamba, devant le micro Guy Maté. Merci et bonne suite au programme sur Radio Kapi. Thank you.